L'hiver semble bien installé chez nous, mais il y a quelques jours, j'ai réussi à passer un après-midi au printemps, en été même. J'ai visité l'Expo FIOC, l'événement annuel de la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec, à Drummondville. J'y ai vu beaucoup de plantes, d'accessoires, de matériaux d'aménagement, etc., que nous reverrons quelque part à compter d'avril ou mai 2019. J'ai aussi discuté de l'état de santé du secteur ornemental. Les choses vont bien et la préoccupation environnementale aidant, des activités prennent de l'ampleur. J'ai d'abord discuté agriculture urbaine.
Bonjour, Karine Moniki, rédactrice en chef du magazine Québec Vert.
Un autre volet, une autre orientation prioritaire là, du côté de la FIOC, l'agriculture urbaine. Il n'y a pas si longtemps encore, plusieurs disaient, c'est une mode. Et l'agriculture urbaine, c'est avoir quelques plantes fines herbes sur la galerie avec un plant de tomates. Mais c'est beaucoup plus large que ça.
Oui, effectivement, l'agriculture urbaine, c'est beaucoup plus qu'un plant de tomate sur un balcon. On rejoint comme industrie, nos entreprises font de l'agriculture urbaine, produisent des plants et du matériel et des matériaux pour l'agriculture urbaine depuis toujours, des fois sans le savoir. On rejoint le marché résidentiel, évidemment, les potagers dans les cours chez les consommateurs directement, mais il y a aussi le marché municipal avec la végétalisation, l'agriculture urbaine dans les terrains inutiles. Utiliser parfois la végétalisation des bâtiments municipaux. On rejoint aussi le commercial et l'industriel, évidemment, avec les jardins communautaires d'entreprises. Donc, de plus en plus d'entreprises végétalisent leurs toits, font pousser des légumes et des fruits sur les toits. Et l'institutionnel, les cours d'école, les garderies, tout ça, tout le monde, les hôpitaux, trouvent important d'avoir des jardins, de pouvoir faire profiter leur clientèle, leur communauté, des fruits de l'agriculture urbaine. Donc, l'agriculture urbaine, c'est beaucoup plus large et c'est pas juste en grande ville, à Québec ou à Montréal. Le périurbain est aussi très important. Donc, même les gens en banlieue qui font des potagers font de l'agriculture urbaine, eux aussi. Des fois, les gens ne vont pas jusqu'à le dire comme ça, mais ils font vraiment de l'agriculture urbaine. Puis, il ne faut pas oublier que 60 % des Québécois achètent des plantes potagères. Donc, achètent, oui, des fleurs ornementales, mais achètent aussi des plants de tomates, de fines herbes, de fleurs comestibles aussi. Donc, c'est un marché qui est excessivement important. Pour nous.
Le fait que bien des gens aient pris conscience de la possibilité de cultiver eux-mêmes certains fruits, certains légumes, et que tout ça puisse s'insérer dans une approche alimentaire plus globale, c'est pas simplement ça qui explique le regain de l'horticulture au Québec, là, mais ça y contribue. Passablement.
Oui, inévitablement, les gens veulent faire pousser leurs fruits et légumes pour des questions aussi de savoir qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette. Donc, c'est important pour eux. C'est important aussi pour eux l'espèce d'autonomie alimentaire, même si, on ne devient pas autonome alimentairement parlant avec un seul potager, mais ça fait partie d'une nouvelle vision que les jeunes ont de plus en plus aussi. Donc, l'agriculture urbaine, c'est composé de plusieurs facettes importantes qui font appel vraiment à toutes les facettes de l'être humain, que ce soit le spirituel, le manuel, l'esthétique aussi, d'avoir un potager, c'est beau aussi. Et ils peuvent aussi faire le mixte avec des fleurs ornementales, donc les deux se côtoient dans les aménagements de plus en plus, à la fois dans le résidentiel, mais du côté municipal aussi, parce qu'on voit que les municipalités, maintenant, font des plates-bandes, font des bacs avec un mix de plantes potagères et de plantes ornementales. Donc, les deux se marient très bien. Puis, on voit que ce côté-là devient de plus en plus populaire chez le consommateur aussi, qui veut attirer les pollinisateurs, qui veut produire ses aliments. Donc, c'est une chaîne complète qu'on développe chez le consommateur aussi.
Il y a plusieurs notions qui se rejoignent, là. Je pense simplement à la notion de communauté, de collectivité, des potagers qui sont ouverts à la cueillette publique, là.
Oui, tout à fait. Que ce soit les initiatives là, des incroyables comestibles ou est-ce que les sections inutilisées dans la municipalité, souvent autour des trottoirs, des arbres, puis tout ça sont végétalisés avec des plantes comestibles, bien, c'est ouvert à tout le monde. Donc, vous passez, vous cueillez ce que vous voulez, puis ça fait partie de l'espèce de partage, de partager de la connaissance horticole aussi, de dire « oui, je l'ai fait pousser comme ça, j'échange avec mes voisins sur comment les bons trucs horticoles », mais c'est aussi un partage de nourriture, d'anti-gaspillage aussi, de réutiliser vraiment tout ce qu'on produit pour éviter le gaspillage.
Je rajoute à ça, toujours sous cet aspect communautaire, collectivité, des potagers qui servent en priorité des familles, mais dont tous les surplus vont aller à des organismes, des banques alimentaires, des choses comme ça.
Oui, tout à fait. Je pense que l'important quand on travaille en horticulture aussi, c'est d'être conscient vraiment de ce que la terre peut nous donner. Puis c'est important pour les gens de ne pas gaspiller. Puis on contribue aussi à la société de cette façon-là.
À propos de l'agriculture urbaine, ça ne rend pas justice à la notion de cette activité-là que de dire simplement que c'est une mode.
Non.
C'est beaucoup plus qu'une mode.
C'est beaucoup plus qu'une mode, c'est beaucoup plus qu'une tendance aussi. C'est un courant de fond. Nous, on aime beaucoup parler à la FIOC d'un courant de fond pour l'agriculture urbaine parce que ça va influencer inévitablement comment les consommateurs vont jardiner dans les années à venir.
Donc, ne parlons pas de mode ou de préoccupation momentanée. La tendance en est une de fond. Par ailleurs, puisque l'on se préoccupe davantage d'environnement, on voit maintenant se développer dans certaines municipalités la mise en place, la création d'infrastructures végétalisées. C'est, de façon un peu simplifiée, l'utilisation et l'adaptation de l'ornemental pour lui donner des vocations plus larges. Mais je laisse à un spécialiste le soin d'élaborer à propos des infrastructures végétalisées.
Guillaume Grégoire. Je suis agronome. Mon rôle est analyste technique et scientifique pour la FIOC, la Fédération de l'horticulture ornementale du Québec.
On parlait d'agriculture urbaine. On en parle de plus en plus, d'ailleurs, dans notre société. Mais on peut ajouter à ça que, au-delà de la production à toutes sortes de fins et dans toutes sortes d'objectifs, la production de certaines denrées, de certains aliments, de certains fruits et légumes, il y a tout le volet d'aménagement des territoires, d'aménagement des municipalités et de fonctions précises que l'on donne à des végétaux que l'on installe, à des aménagements que l'on fait sur des territoires.
Effectivement, l'agriculture urbaine et d'autres secteurs de l'horticulture ornementale s'inscrivent dans le mouvement qu'on appelle les infrastructures végétalisées et nourricières dans le cas de l'agriculture urbaine. Quand on parle d'infrastructures végétalisées, on peut s'apparaisser en deux grandes catégories, si on veut. D'une part, le verdissement du territoire, qui est, bon, les parcs, les terrains sportifs naturels, par exemple, l'agriculture urbaine. Et l'autre grand secteur étant les phytotechnologies, qui sont l'utilisation de plantes à des fins vraiment environnementales. Par exemple, on parle de toits verts, de marais filtrants, de bassins de rétention végétalisés et d'autres types de structures comme celles-là.
Et les municipalités, les autorités de ces territoires-là trouvent leur compte dans des aménagements comme ça. Est-ce que c'est trop simplifié que de dire que c'est à la fois quelque chose de beau que l'on fait, mais qui a ses utilités techniques aussi?
C'est effectivement beau, c'est environnemental et c'est souvent économique pour les municipalités aussi. Par exemple, il y a des villes au Québec qui ont fait le choix, plutôt que de rénover des systèmes d'égouts pluviaux désuets qui devraient être agrandis, par exemple, on fait le choix plutôt de végétaliser les rues, ce qui fait qu'il y a moins d'eau. Le sol ainsi devient perméable, donc l'eau rentre dans le sol, n'est pas drainée, si on veut, dans le réseau d'égouts pluvial. Et ça permet de maintenir l'intégrité du réseau d'égouts pluvial plus longtemps, de diminuer le volume d'eau qui va à l'égout pluvial, donc qui doit être traité. Donc, c'est des coûts directement sauvés par la municipalité. Et souvent, ces aménagements-là sont faits à une fraction du coût que ça aurait coûté, dans le fond, d'excaver, de remplacer complètement le système existant.
Donc, il faut voir vraiment au-delà de la plante aquatique qu'on peut voir dans un petit ruisseau de surface réaménagé, en plein centre-ville de certaines municipalités.
Oui, on parle vraiment de structures, d'infrastructures de plus en plus élaborées et complexes qui jouent plusieurs rôles. Je parlais de gestion d'eau pluviale, mais évidemment, si on met plus de plantes en milieu urbain, bien, ces plantes-là vont quand même produire de l'oxygène, capter du CO2, lutter contre les îlots de chaleur, créer des habitats pour la faune, la flore. Donc, on intervient sur un problème, mais on en règle une panoplie par l'utilisation des plantes par le fait même.
Le niveau de conscience, il est maintenant assez large. Les gens, et tout particulièrement les élus qui souvent travaillent sur des projets de ce genre-là ou rejettent des projets de ce genre-là, quel est le niveau de conscience? Est-ce qu'on est rendu assez loin dans ça?
Je dirais qu'on est encore au début au Québec de l'utilisation de ces infrastructures végétalisées-là. Il y a quelques municipalités qui sont plus avancées que les autres. Évidemment, c'est un peu une remise en question du système qu'on connaît. Juste traditionnellement, on parlait d'eau pluviale. Le réflexe naturel qu'ont les gestionnaires municipaux, c'est d'évacuer l'eau le plus possible. Nous, on arrive avec un concept de dire « gardons l'eau sur place, laissons-la s'infiltrer ». Ça a plein de bienfaits. Donc, juste ça, c'est qu'on doit refaire le mode de pensée des gens en place. Oui, des élus, mais aussi des gens plus techniques sur le terrain. Mais ça se fait tranquillement pas vite. Et de plus en plus, les infrastructures végétalisées sont utilisées par les villes au Québec depuis les dernières années.
Est-ce qu'on a complété, on a suffisamment de documentation? Est-ce qu'on est capable d'argumenter sur le fait que des aménagements de ce genre-là ont des effets réels, ont des impacts réels sur les milieux de vie, sur l'environnement, sur les écosystèmes, etc.?
C'est assez documenté, je dirais, ailleurs dans le monde et dans certaines régions où c'est comparable au Québec. Au Québec, il y a encore beaucoup de recherches à faire, je dirais, sur ce côté-là, tant pour la sélection des végétaux, le choix des substrats, les techniques d'entretien pour que ces infrastructures-là perdurent dans le temps, mais aussi pour quantifier ces bienfaits-là. Souvent, ce qui fonctionne, c'est de quantifier, de mettre une valeur monétaire sur les services rendus. Donc, si on est capable d'arriver devant un élu municipal, par exemple, et de dire « on va installer telle infrastructure, ça va coûter tant, mais on va économiser tant parce qu'on va éliminer X nombre de litres d'eau à traiter », donc on arrive avec une valeur monétaire aux infrastructures. Et ensuite, si on rajoute en plus les autres bienfaits comme la séquestration de CO2 et on peut valoriser ça aussi, bien, c'est vraiment une stratégie gagnante. Comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce côté-là, malheureusement.
Donc, pour des gens comme vous, il y a beaucoup de travail et dans la conviction à faire admettre de la part des élus municipaux autant que dans la préparation de projets comme tels.
Oui, il y a les élus d'une part, il y a aussi la population. Les gens ne sont pas toujours habitués de voir ces infrastructures-là. Donc, de la part des élus, des municipalités, il y a vraiment un gros travail de communication et de vulgarisation à faire pour ce type d'infrastructure-là. Mais c'est un marché pour notre industrie, en infrastructure environnementale, qui a un fort potentiel de développement. Si on prend juste la gestion des eaux pluviales et la lutte aux îlots de chaleur, on parle d'un marché d'à peu près 1 milliard de dollars d'ici 5 ans environ de développement pour le marché. Donc, les entreprises, les gens qui ont de l'influence ont tout intérêt à valoriser ces infrastructures-là auprès des gestionnaires municipaux. Et ça peut être fait aussi auprès des entreprises, des usines. Si on parle de, par exemple, phytoremédiation pour dépolluer le sol à l'aide de plantes, c'est un autre type d'intervention qui peut être faite. Donc, on a vraiment intérêt à valoriser ce type d'intervention-là auprès des décideurs.
Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait « Ah oui, on sait bien, vous êtes d'un groupe de professionnels qui cherchent à avoir du travail et s'assurer du travail ».
C'est vrai, mais en même temps, on pense que ça va vraiment au-delà des retombées pour notre industrie. C'est vraiment des retombées pour l'ensemble de la population et pour l'environnement aussi. Donc, je pense qu'en 2018, avec les bouleversements qu'on connaît du point de vue climatique, je pense pas qu'on a vraiment le choix d'aller vers ce type d'infrastructure-là pour régler des problèmes à la base environnementaux ou économiques, mais pour apporter une panoplie de bienfaits à l'ensemble de la population. Donc, c'est pas juste la personne qui va vendre les plantes ou qui va faire l'aménagement qui va en profiter. C'est vraiment la société au complet qui va profiter de ces infrastructures-là.
Est-ce que vous parlez anglais?
Yes.
Ça vous tenterait pas d'aller voir M. Donald Trump? Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'hiver a ses charmes, bien sûr. Et de toute façon, il faut lui trouver des avantages puisqu'il sera avec nous encore 4 mois. Mais si vous voulez tout de même préparer le printemps, parlons des exceptionnels. Ces plantes nouvelles qui apparaissent chaque année sur le marché. La sélection qui sera sur le marché au printemps 2019 est, encore une fois, exceptionnelle. La présidente de la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec, Luce Daigneau, parle de ce programme des exceptionnels.
Que j'appelle nos programmes coup de cœur, définitivement. Les exceptionnels, c'est un programme qui a été créé il y a une douzaine d'années pour faciliter, en fait, la vie des gens qui voulaient acheter des plantes annuelles. On demande aux hybrideurs d'un peu partout dans le monde de faire parvenir des belles variétés, des nouvelles variétés de plantes annuelles. Et ces variétés-là sont ensuite plantées en jardin. Et jusqu'à tout maintenant, c'était au jardin Daniel Séguin. Et depuis l'année passée, on est très contents. Le Jardin botanique de Montréal s'est joint. Le Jardin Van Denen à Québec s'est joint. Donc, on a plus de 1 million de personnes qui voient ces plantes-là testées l'été. Tout l'été, on invite les visiteurs de ces jardins-là à venir voter pour leur coup de cœur tout au long de l'été. Et là, il y a des experts qui, à la fin de l'été, regardent la sélection. Et de là, on prime certaines variétés. Elles doivent être facile d'entretien, donc à peu près aucun entretien, et très performante. Alors, si on parle d'une variété de, je sais pas, d'impatience à titre d'exemple, ça doit être une plante qui est super florifère, qui n'a pas de maladie, qui pousse très bien, qui est constante. Alors, les gens d'aujourd'hui recherchent des plantes qu'on n'a pas beaucoup besoin d'entretenir, qu'on n'a pas besoin de traiter. Alors, on sélectionne entre 5, 6, 7 et 10 plantes par année qui vraiment sont des coups de cœur. Et là, on les fait connaître à la population. Elles sont reconnaissables parce qu'elles ont un petit logo là, exceptionnel. Alors, quand vous allez dans les jardineries, à titre d'exemple, vous recherchez ce petit logo-là et vous savez que cette plante-là, c'est une nouvelle plante et qui va vraiment répondre et vous aider à avoir une belle plante performante toute l'été.
Est-ce que je me trompe ou on ne fait plus que la sélection de fleurs ou de plantes vertes ou de plantes décoratives, mais il y a aussi des plantes comestibles?
C'est exact. C'est notre nouveauté. L'année passée, on a décidé d'introduire, et ça, c'était à la demande des consommateurs, là, le volet des plantes potagères et aussi des fines herbes. Alors, on a commencé, là encore, à demander aux hybrideurs. Et cette année, on a trois belles petites potagère et vraiment des coups de cœur. Et il y en a une qui s'appelle, c'est un piment qu'on appelle biquigno, qui est tellement cute, qui est tellement mignon. Personne ne peut résister à ça. On a la tomate tutti frutti. Il est super bon et j'en ai même fait sécher. Ils sont tout petits, c'est comme des tout petites cornes d'abondance et le goût est extraordinaire. Et on a aussi la fameuse basilic purple ball, tout petite, mignonne, qui fait une boule. Toutes les plantes choisies cette année, je vous le dis, vous allez tomber en amour avec ces plantes-là.
Il y a un plant de tomate aussi?
Oui, le tutti frutti. Alors, ça fait des super grappes, c'est super productif, le goût est bon, très résistante aux maladies. Je m'emballe, que voulez-vous, c'est un programme extraordinaire. À chaque année, vous avez donc une dizaine de plantes. Vous vous rendez dans vos centres jardins, vous allez choisir les annuels exceptionnels et les coups de cœur exceptionnels au niveau des légumes. Et on vous garantit que ce sont des plantes avec lesquelles vous allez être très heureux.
Ici Lionel Levac. L'une des préoccupations majeures dans le secteur de l'horticulture ornementale est la main-d'œuvre. Beaucoup d'activités sont saisonnières, ce qui complique le recrutement et la rétention des employés. Bientôt, je vous en parlerai. Au revoir.